journal avec Hélène Fromanti.
Bonjour à tous. Et de une première médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo, au Japon, du bronze pour le judoka Luca Meredze, 25 ans, nous y reviendrons. Les anti-vax et les anti-passes de nouveau dans la rue, aujourd'hui partout en France. Nous serons en direct de la manifestation Place de la Bastille, à Paris. Le projet de loi sanitaire, lui, est examiné au Sénat. Direction aussi le Mali, dans ce journal où de plus en plus de civils sont victimes d'engins explosifs et autres mines. Reportage auprès de blessés à Bamako. Et puis comme chaque samedi, nous retrouvons Thomas Pesquet en fin d'émission. L'astronaute nous parlera tourisme spatial.
France Inter.
Ils étaient plus de 110 000 il y a une semaine pour dénoncer la dictature sanitaire. Combien seront-ils aujourd'hui ? Nouvelle journée de manifestation contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Plusieurs dizaines de rassemblements sont prévus en France, à Auxerre, Limoges, Lille, Nantes ou encore Besançon. À Paris, 3 manifestations ont été déclarées, dont une au départ de la place de la Bastille. Où vous vous trouvez pour France Inter, Rémi Brancato ? Bonjour.
Bonjour.
Cette multiplication de rassemblements, ça rappelle les prémices du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018. Et justement, Rémi, c'est un groupe de Gilets jaunes qui est à l'origine de ce rassemblement à la Bastille.
Oui, ils sont déjà plusieurs dizaines à arborer ici sur la place leur gilet jaune avec des revendications diverses parmi eux. Christelle, venue de l'Oise, elle revendique avant tout de pouvoir refuser, dit-elle, le vaccin.
Mon mari, déjà, parce qu'il travaille dans la poissonnerie, risque d'être licencié parce qu'il veut pas du vaccin. Puis on n'a pas assez de recul sur ce vaccin.
Alors ici, tous ne se disent pas anti-vax, mais à minima anti-pass sanitaire. Nedjé, gilet jaune de la première heure, co-organisateur du rassemblement, estime que c'est cette mesure qui pose un problème de liberté.
On va pouvoir nous licencier, nous sortir des restaurants, des salles de sport, du cinéma, notre liberté. Ils nous la volent.
La généralisation du pass sanitaire fait que les gens commencent à comprendre que ce gouvernement est un gouvernement autoritaire. Bien sûr que c'est un regain pour les gilets jaunes.
Des gilets jaunes revigorés, disent-ils, par la mobilisation contre les mesures sanitaires. Yann était il y a une semaine dans les rues de la capitale. Ce gilet jaune venu de Châteauroux estime qu'on est au début d'un mouvement plus large.
Le pass sanitaire, c'est la ligne rouge. Moi, je ne vais pas pouvoir emmener mon gamin au mois d'août à la piscine, parce que je veux pas me faire vacciner, c'est mon droit. Tant qu'on sera pas, de notre point de vue, en démocratie, tant qu'on sera pas représenté, eh ben je serai dans la rue, parce que la rue, c'est notre seul moyen d'expression.
Beaucoup de manifestants dénoncent en effet un manque de consultation démocratique. Même discours à quelques mètres sur le stand de l'ancien candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade. Cette mobilisation anti-pass sanitaire attire aussi les politiques, comme Florian Philippot. L'ancien FN appelle, lui, au rassemblement au Trocadéro cet après-midi.
Rémi Brancato, place de la Bastille à Paris, avec les moyens techniques de Frédéric Cayrou pour France Inter. Et ce samedi, comme la semaine dernière, on l'entendait à l'instant, hein, des figures de la droite souverainiste ou radicale descendent dans la rue, surfent sur les colères populaires pour tenter de se refaire une santé politique. Florian Philippot, on le disait à l'instant, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan ou encore François Asselineau, tous ne cachent plus leur opposition au pass sanitaire. Ils n'hésitent pas, comme la foule, à dénoncer une dictature ou un apartheid. Mais il y a bien une absente dans ces cortèges. Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement National, tiraillée entre l'envie de contenter son électorat anti-système et l'objectif de dédiaboliser son parti. Élodie Forêt.
Marine Le Pen est sur une ligne de crête. Si la présidente du RN n'a rien d'une anti-vax, elle-même a eu ses 2 doses, elle ne peut en revanche pas ignorer la colère d'une frange importante de son électorat. Elle s'oppose donc à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire, mais sans tomber dans l'outrance. Elle aborde le sujet par les libertés publiques, par le droit des salariés, décrypte le politologue Jean-Yves Camus. Objectif, maintenir son cap, donc vers une supposée normalisation, quitte à faire tousser la base qui craint de perdre dans les urnes ce que le parti gagne en crédibilité. Résultat, des élus beaucoup plus radicaux que leur patronne. Dans le Var, les conseillers régionaux Frédéric Boccaletti ou Amaury Navarane participent aux manifestations anti-pass quand Gilles Penel, membre du bureau national, tweete carrément « dictature en marche », provoquant une certaine gêne chez le porte-parole Sébastien Chenu. « Il ne s'agit pas d'une dictature, il s'agit d'un recul de nos libertés », a-t-il nuancé sur LCI. Le RN décidément toujours à la recherche du bon équilibre entre présidentialisation et culture contestataire.
Élodie Forêt, le projet de loi sanitaire dénoncé, critiqué mais pas encore officiellement adopté. Le texte, validé par l'Assemblée nationale hier matin, est désormais au Sénat. 300 amendements en débat toute la journée, sans doute plus calmement qu'au Palais Bourbon. Un projet de loi pas parfait, selon le sénateur Les Républicains Philippe Bas, mais pour le rapporteur de la Commission des lois, il faut laisser sa chance au texte.
Je ne vous présenterai jamais l'extension du pass sanitaire comme un absolu, comme la martingale parfaite. Mais essayons de casser avec cette martingale imparfaite l'épidémie avant de passer à autre chose s'il le fallait. Je crois que nous devons accepter de tenter notre chance pour éviter le pire en faisant en sorte que ce pass sanitaire soit à la fois le plus efficace possible pour la santé d'une part, et le plus respectueux possible des droits individuels et des libertés d'autre part.
Le sénateur LR Philippe Bas qui propose par ailleurs de réévaluer l'extension du pass sanitaire devant le Parlement d'ici au 31 octobre. Et ensuite, comment ça va se passer concrètement début août quand il faudra présenter ce précieux sésame à l'entrée des bars et des restaurants? Pour s'y préparer, dans le nord de la Corse, 13 établissements des communes de Calvi, Île-Rousse et Saint-Florent ont commencé hier un test grandeur nature. Les gérants scannent les passes sanitaires des clients, se penchent sur les détails techniques, mais ne refusent personne pour le moment. Un essai plutôt concluant pour Didier, propriétaire du bar de la Tour à Calvi.
Les gens, c'est vrai, ils découvrent un peu. Hein. On a une semaine d'avance sur ce qui va se faire au niveau national. Donc c'est bien, c'est une expérimentation. Il nous a fallu peut-être une heure ou deux heures de réunion déjà en sous-préfecture, avec le sous-préfet, monsieur le maire, et différentes personnes qui assistaient à cette réunion. Et ensuite, dans mon établissement, à former mes deux, trois employés. Et ça a été assez simple. Hein. Voilà, on nous présente un QR code, je le scanne. Et une fois que je l'ai scanné, ça marque valide. Et à partir de là, voilà, on est plus que dans la simplicité.
Des propos recueillis par Pierre Pasqualini de France Bleu RCFM. Et puis à Nice, le maire Christian Estrosi fait machine arrière. Le pass sanitaire ne sera finalement pas obligatoire dans les centres aérés et colonies de vacances de la ville. S'agit-il d'un nouveau règlement de compte à Marseille? Un jeune homme de 26 ans a été tué par balle la nuit dernière dans une cité des quartiers nord. Selon la police, la victime était connue pour des délits, mais n'avait pas de lien avec le trafic de stupéfiants. Perdre une jambe, un bras au détour d'une route ou d'une piste ensablée, c'est ce que risque au quotidien la population du Mali, menacée par les mines et engins explosifs, jamais visibles mais toujours plus nombreux depuis le début du conflit dans le pays en 2012. Ça concerne les militaires et aussi de plus en plus de civils. Depuis le début de l'année, selon les Nations Unies, 54 personnes sont mortes dans des incidents liés aux engins explosifs, dont près d'un tiers de civils. Manon Laplace s'est rendue dans un centre de prise en charge des victimes à Bamako. Reportage.
Partie de foot improvisée pour Oumar, Boubacar et Soufi. La scène paraîtrait presque ordinaire dans la capitale malienne, si ce n'était pour les prothèses de jambes dont les trois Maliens sont équipés.
Nous sommes sautés sur une mine. J'ai perdu ma jambe gauche.
Depuis son accident, Oumar Koulibaly, militaire, s'est fixé pour mission de ramener les victimes d'engins explosifs vers les structures de soins. Parmi elles, de nombreux civils, dont Fatoumata Traoré. Elle aussi a perdu sa jambe. Elle rendait alors visite à son frère à Gao, dans le nord du pays.
J'étais allée voir mon frère à Gao quand notre car est monté sur une mine. Certaines personnes sont mortes. Moi, j'ai été blessée. Ma jambe a été coupée.
Les enfants seraient particulièrement vulnérables, explique Luc Adam Sambou, coordinateur désarmement au Danish Refugee Council, qui a mis en place un programme d'accompagnement des victimes.
Les enfants sont particulièrement exposés au danger des engins explosifs posés sur les pistes que ces enfants aussi empruntent pour des raisons de subsistance. Aller, par exemple, mener le troupeau au pâturage, aller à la recherche du bois, de l'eau.
En 2020, le service de l'action anti-mine des Nations Unies recensait 170 événements liés aux engins explosifs. Parmi les 76 tués et 287 blessés, 49% étaient des civils. À Bamako, Manon Laplace, France Inter.
Direction Tokyo à présent, avec le début des choses sérieuses aux Jeux Olympiques et donc la France qui active son compteur à médailles. Du bronze pour le judoka Luca Meredze qui vient de l'emporter en moins de 60 kilos contre le sud-coréen Won Jim Kim, Stéphanie Mora.
Oui, et pour mesurer la performance, eh bien, il faut rappeler que la dernière fois que la France avait remporté une médaille dans cette catégorie des moins de 60 kilos, c'était en 1980 avec Thierry Rey. Donc ça donne une idée de ce qui qui s'est passé aujourd'hui pour Luka Meredze, ce jeune garçon de 25 ans né à Tbilissi, qui a été réfugié politique avec toute sa famille en 2010, installé au Havre, et qui depuis a pris la nationalité alors qu'il était junior, la nationalité française. Il est venu à bout d'un Coréen, le Coréen Kim, qui est 9e mondial. Au bout de plus de 8 minutes de combat, on était dans le temps additionnel, le golden score comme on dit au judo, mais cette fois-ci, contrairement à la finale perdue, eh bien, il a tenu bon et il a réussi à décrocher donc cette médaille. Il va monter sur le podium là dans les toutes prochaines minutes dans le Budokan de Tokyo, et c'est une formidable récompense pour ce garçon qui, si les Jeux avaient eu lieu l'année dernière, eh bien, n'aurait pas été sélectionné. Il y avait Walid Kiar devant lui, mais ces derniers mois, eh bien, Luka Meredze, à la force, au travail, s'est imposé numéro 1 et il a réussi donc son pari avec cette première médaille pour ses tout premiers Jeux ici à Tokyo.
Stéphanie Mora du service des sports de France Inter. À l'instant aussi, qualification du jeune nageur Léon Marchand, 19 ans. Il s'est qualifié pour la finale du 400 mètres 4 nages, du volley. En ce moment, la France joue face aux États-Unis. Et puis un peu plus tôt, grosse déception en tennis. Élimination dès le premier tour de la paire Nicolas Mahut-Pierre Gerber. Pas de miracle en cyclisme sur route. Le Français David Godu termine 7e de la course en ligne. 27e place pour Guillaume Martin. C'est l'Équatorien Richard Carapaz qui l'emporte. Et puis le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, termine en 3e position. Et puis pour terminer, la toute première médaille de ces Jeux Olympiques, toute première médaille d'or revient à l'athlète chinoise Yang Qiang, sacrée ce matin en tir à la carabine féminin à 10 mètres. La ville de Vichy dans l'Allier et le phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde vont-ils rejoindre les sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité? Le comité de l'UNESCO réuni en ce moment en Chine et doit rendre sa décision d'ici 15 heures. 4, 3, 2, 1, lift off. 13h12 sur France Inter, l'heure comme chaque samedi de retrouver le journal de bord de l'astronaute Thomas Pesquet. Cela fait maintenant 3 mois que le Français a rejoint la Station Spatiale Internationale et toutes les semaines, il confie ses impressions et le récit de son travail à Sophie Becherel. Cette semaine, ils ont évoqué ensemble le tourisme spatial.
Oui, après que Richard Branson, patron de Virgin Galactic, et Jeff Bezos, créateur d'Amazon, ont réalisé leur vol suborbital, chacun de leur côté, j'ai voulu savoir ce que Thomas Pesquet pensait de cette nouvelle activité qui s'annonce, s'offrir quelques minutes d'apesanteur en montant à 100 km d'altitude. 100 km, c'est la limite officielle entre l'atmosphère et l'espace. Le coût reste prohibitif, mais les deux milliardaires comptent bien développer et démocratiser le marché. Ce tourisme spatial, vous en pensez quoi, Thomas ?
Je pense que le tourisme spatial, ça peut être un bien, il faut espérer que ce soit une force positive. Je pense déjà parce que ça peut quand même essaimer pas mal cette histoire. Moi je vois ce que SpaceX a fait, ça crée quand même pas mal de jobs quand même. Tout ça, ça crée des emplois hyper qualifiés d'ingénieurs, etc. Mais pas que, il y a quand même des gars qui construisent les fusées, il y a des mecs qui sont chaudronniers, qui font les réservoirs de carburant, il y a des plongeurs qui viennent nous récupérer dans l'Atlantique quand on se repose. Enfin, il y a vraiment tout un tas de jobs qui se créent autour de ce genre d'initiative qui n'existait pas avant, donc ça c'est plutôt bien. Et puis en plus, je me dis, chaque fois qu'on se confronte à des défis quand même où on est un peu aux limites de l'homme, où on veut innover, où on en sort quand même plein d'inventivité, où les gens se dépassent, les gens créent des choses, les gens inventent. Donc même si c'est un moteur privé qui est derrière ça, le résultat, je pense qu'il peut être quand même assez bon.
Que feront ces touristes si un jour on les envoie dans la station ?
C'est vrai qu'il y a des gens dans le milieu des astronautes professionnels qui regardent ça un peu, pas en fronçant le sourcil, mais on va dire en levant le sourcil. Parce que nous, on travaille quand même 12h30 par jour, tous les jours, du matin au soir. Enfin, le boulot est infini dans la station, quasiment par définition. Donc d'avoir à côté des gars qui sont là pour regarder par la fenêtre et prendre des photos, déjà ça peut être un petit peu étrange. Mais en plus, ce qu'on se demande, c'est... c'est des gens qui vont vouloir, s'ils veulent être en photo, il faut que quelqu'un la prenne, la photo sur laquelle ils apparaissent. Donc, est-ce qu'on va nous demander à nous, en gros, de s'occuper d'eux, alors que nous, on n'a pas tellement signé pour ça, et puis qu'on estime avoir autre chose à faire. Donc, il va falloir trouver un bon équilibre, définir un peu des règles, et puis que tout ça se mette en place, on va dire.
Les méga-feux en Amérique, les inondations en Belgique et en Allemagne, est-ce que vous voyez tout ça de là-haut ?
Oui, malheureusement, on voit les feux. Alors, c'est comme d'habitude, on regarde pas forcément toujours à la fenêtre, donc c'est un peu le... Parfois c'est pas vrai, parfois le sol, et surtout en cas de catastrophe naturelle, on a quand même des marqueurs sur le planning, et ça remplace pas nos activités, mais ça nous dit à ce moment-là, il se passe ça, vous allez passer au-dessus, et si vous avez l'occasion, allez prendre des photos. Ça, c'est sûr que ça arrive. On en a eu notamment pour les feux de Californie, moi ce qui m'a ou en Arizona surtout, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que on a vu les cendres aller jusqu'à la stratosphère, en fait, avec des vents de haute altitude et des feux de grande intensité. Bah, les cendres se retrouvent propulsées vraiment extrêmement haut et elles sont ensuite un peu bloquées dans la stratosphère. La stratosphère, c'est comme un couvercle de marmite, en fait. Tous les phénomènes atmosphériques se passent en dessous et puis au-dessus, il y a plus rien. Et donc, moi, j'ai vraiment vu alors cette espèce de poussière dans la haute atmosphère qui marquait une espèce de bulle que j'avais jamais vue avant. Donc, c'est pour dire un peu l'amplitude que peuvent avoir ces phénomènes. Les inondations, malheureusement, non, on les a pas vues. On a des passages de nuit en ce moment, plutôt en soirée de nuit sur l'Europe. Et c'est un peu dommage. Ouais, c'est sûr que témoigner de des phénomènes comme ça depuis l'espace, c'est important. Et parfois, ça aide aussi. Parfois, ça aide pour les secours. Parfois, ça aide à organiser les choses. Et c'est aussi le boulot des satellites. On a beaucoup de satellites d'observation, de communication, des chartes entre agences qui s'activent les unes les autres en cas de catastrophe naturelle. Et nous, on essaie de faire apporter notre petite pierre à l'édifice depuis la station spatiale.
L'astronaute Thomas Pesquet avec Sophie Becherel. On reste dans le ciel le temps.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et les prévisions de Jean-Pierre Rameau de Météo France.
Toujours sous l'influence de la dépression centrée sur le Finistère, vous allez retrouver cet après-midi des pluies orageuses de la Bretagne au Pays de la Loire et de la région centre à la Normandie. Ces orages toucheront la région parisienne en soirée. Les pluies orageuses resteront aussi au menu de votre après-midi de l'Auvergne aux Deux-Savoie en passant par le Lyonnais et de la Bourgogne-Franche-Comté à la région Grand Est et le long des frontières du Nord. Dans les autres régions, prévoyez un ciel partagé et quelques averses. En revanche, le soleil va briller généreusement autour du golfe du Lion et de la région PACA à l'île de Beauté. Côté température, la chaleur résistera près des frontières de l'Est ainsi qu'autour de la Méditerranée avec des valeurs comprises entre 28 et 35 degrés. Ça sera plus respirable ailleurs, comptez 22 à 27 degrés. Demain, le ciel sera souvent partagé entre éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses. Les averses seront plus fréquentes et parfois orageuses au nord de la Loire et près des frontières de l'Est. L'ensoleillement restera généreux entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA, sans oublier la Corse.
Merci Jean-Pierre Rameau de Météo France.